Frères et sœurs, les amis, nous voilà arrivés au quatrième dimanche du temps ordinaire et nous reprenons le fil et l'aiguille de la grande tapisserie de la parole de Dieu qui ponctue nos vies de tout un chacun. Et nous avions laissé dimanche dernier le Christ en train de recruter ses apôtres, Simon et André, son frère d'abord, puis Jacques et Jean, les fils de Zébédée, et avec eux, le Christ part pour Capharnaüm, et aussitôt le jour du sabbat, nous dit le texte, il se rend à la synagogue. Rien de plus normal, vous me direz, pour un juif, de se rendre à la synagogue, en se souvenant que, en parcourant la Galilée, le Seigneur a proclamé que le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché. Il faudrait s'arrêter quelques instants sur le temps est accompli. Autrement dit, une fois de plus, la notion de temps fait irruption dans le texte et dans notre méditation, à savoir que le Christ s'inscrit dans l'attente de son peuple. Il n'est pas à côté de son peuple. Il s'est fait 100% homme pour vivre lui aussi dans le temps et de vivre une attente. Autrement dit, une attente dans la continuité du projet de Dieu sur Israël, tout simplement. Et là, dans le texte d'aujourd'hui, à la synagogue de Capharnaüm, Jésus se met à enseigner, et vous me direz, rien de plus normal. Premier point de notre méditation. Le deuxième, c'est que ce n'est pas moins de 4 fois que le mot enseigner ou le terme enseignement revient dans ce texte en quelques lignes. Je vous les rappelle rapidement au début du texte. Jésus se rendit à la synagogue et là il enseignait. On est frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas les scribes. Et à la fin du texte, tous s'interrogeaient, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau proclamé avec autorité. Donc lorsqu'on rencontre une répétition, j'allais dire aussi rapprochée du même terme ou du même verbe « enseigner » ou le mot « enseignement », c'est qu'il y a là quelque chose d'important sur lequel il faut nous arrêter quelques instants. C'est donc au cœur de cet enseignement de Jésus que Marc va noter une rupture. À l'enseignement des scribes vient se substituer tout simplement l'enseignement du Sauveur, et on va en avoir tout de suite la preuve, car Marc ne nous rapporte pas ce que Jésus a bien pu dire, mais bien mieux ce que Jésus a fait. Et c'est l'exemple de l'expulsion d'un démon, ce que nous appellerions aujourd'hui exorcisme. Ce qui veut donc dire, pour saint Marc, que les 2 facettes de l'œuvre du Christ, à savoir son enseignement, c'est-à-dire sa parole, et l'acte de délivrer cet homme de son démon, vont ensemble. Et même, je dirais, que le meilleur des enseignements, c'est l'action, la vraie, celle qui libère l'homme de toute forme de mal, en définitive. Tout ceci se passe, à noter également, le jour du sabbat. Et ce n'est pas pour rien que saint Marc nous le rappelle. C'est le jour du sabbat qui était le jour par excellence où l'on célébrait l'action de Dieu. Ben donc l'action de Dieu aujourd'hui sera d'expulser un démon. Alors il est à noter aussi, et c'est pas sans intérêt, que le Christ n'agresse pas l'esprit impur. J'allais dire c'est le contraire. C'est cet esprit impur qui va crier Et dans ce cri, cet esprit impur annonce tout simplement sa défaite. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Alors ce n'est pas une interrogation, es-tu venu pour nous perdre? C'est tout simplement que le malin, le démon, sait très très bien qu'il a en face de lui celui qui est le seul saint, et cela lui est intolérable, tout simplement. Alors ce n'est qu'un peu plus loin que le Christ va hausser le ton, si je puis dire, en disant « Silence, sors de cet homme !» Et là, il emploie le même verbe que l'on trouvera dans le récit de la tempête apaisée, autrement dit, « Sois muselé, tais-toi !» Et le Christ commande à cet esprit impur de se taire, non pas parce que l'esprit impur n'aurait pas quelque chose à dire, mais tout simplement, le Christ n'attend pas de belles paroles, il n'attend pas de déclarations de la part de l'esprit impur, car les esprits impurs sont très forts pour faire de belles déclarations. Et puis un ultime cri de cet homme possédé, et qui sera ensuite délivré. Et c'est à ce moment-là que les langues de ceux et celles qui ont assisté à cette expulsion du démon, à cet exorcisme, pour finir, que ces langues vont se délier. Et vont se délier en posant cette interrogation qui est là aussi pas sans intérêt, le récit de saint Marc se clôt sur une question, qu'est-ce que cela veut dire? C'est bien le rôle des miracles et des actes de puissance de Jésus en général, ils ne prouvent rien, mais ils interrogent toujours, ils font signe. Alors ce n'est pas qu'il y a quelque chose à dire là-dessus, mais tout simplement l'acte lui-même que le Christ vient d'opérer et devient un signe, tout simplement. Alors nous pouvons demander dans notre Eucharistie de savoir reconnaître les signes des temps d'une part, mais aussi de reconnaître dans l'Eucharistie elle-même, au cœur de notre assemblée, le signe de la présence du Christ, présence vivifiante, présence réconfortante, présence qui est celle-là même de l'amour. Amen.